Le journal vous est présenté par Pierre Veil. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe Collin, bonsoir à tous. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, annonce le retrait immédiat d'une des armes les plus redoutables des policiers dans le maintien de l'ordre, la grenade controversée Gli F4. Réunion cet après-midi à Matignon autour d'Édouard Philippe pour faire le point sur les mesures à prendre après les premiers cas d'infection au coronavirus en France et examiner un possible rapatriement des ressortissants français en Chine. En Chine, tous les voyages organisés vers l'étranger sont suspendus, donc moins de touristes chinois à Paris dans les prochaines semaines. C'est un mal nécessaire, dit la mairie. Oui, un référendum à questions multiples à l'issue de la Convention citoyenne sur le climat. C'est ce que propose Pascal Canfin, le président de la Commission environnement du Parlement européen. Il était l'invité de Questions politiques sur France Inter à la mi-journée. C'était une figure de Montmartre et de la nuit parisienne avec son cabaret de la rue des Martyrs. Michou est mort. Il avait 88 ans. Son minuscule cabaret, toujours plein, a inspiré à Jean Poiret la cage aux folles. Et puis bien sûr, le journal des sports avec Jérôme Val. Au programme, le ski et le slalom sur la piste de Kitzbühel en Autriche. Clément Noël prend la troisième place. Le tennis à Melbourne. L'Open d'Australie. La nuit prochaine, Gaël Monfils se jouera sa place pour les quarts de finale face à Dominic Thiem. Le football. Dernier match du week-end ce soir entre Lille et le PSG. Les Parisiens qui ne sont plus qu'à 3 semaines de leur 8e de finale de la Ligue des Champions. On s'intéressera aussi à la chaussure qui fait voler les marathoniens et qui crée la polémique. Doit-on l'interdire ?
France Inter.
Dans l'arsenal policier pour le maintien de l'ordre, c'est une arme intermédiaire régulièrement accusée de causer des mutilations. Le défenseur des droits avait demandé en 2016 que l'on cesse de l'utiliser, la grenade Gli F4. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, annonce aujourd'hui son retrait immédiat. Charlotte Piret, cette grenade a cette particularité, elle contient du TNT et elle a un très fort effet de souffle.
Cette grenade explosive, la plus puissante encore utilisée depuis la mort de Rémi Fraisse et la suppression des grenades offensives en 2014, est accusée d'être à l'origine de nombreuses blessures de manifestants, mains arrachées notamment. Alors oui, pour Maître Ariel Halimi, avocat de la Ligue des droits de l'homme, sa suppression était une nécessité.
C'est une décision nécessaire, impérieuse, et on se réjouit de la suspension de l'utilisation de ces grenades qui n'étaient plus commandées par l'État. Dans la mesure où on n'utilisait aujourd'hui que les stocks, mais c'était des stocks importants qui pouvaient aller au moins jusqu'à la fin de 2021. Donc c'est un effet d'annonce, c'est un effet communicationnel avant les municipales, et on espère que vraiment la réflexion sera beaucoup plus globale. On peut aujourd'hui envisager de revenir à quelque chose de plus raisonné et peut-être permettre un apaisement social, notamment dans les manifestations.
Mais la grenade Gli F4 a déjà une remplaçante dans l'arsenal des forces de l'ordre, GM2L de son petit nom, grenade lacrymogène elle aussi, plus d'explosif cette fois, mais des éléments pyrotechniques selon le fabricant, le même dans les deux cas, et déjà de très nombreuses voix pour dénoncer la dangerosité de ce nouvel outil.
Voilà, enquête de Charlotte Piret. Et puis ces chiffres publiés ce soir par le ministère de l'Intérieur. Le nombre de faits racistes et xénophobes pour une large partie des menaces a très fortement augmenté en 2019, avec une hausse de plus de 130%. Après avoir enregistré un repli sur les deux dernières années, ils ont augmenté en 2019 avec 1142 faits comptabilisés contre 496 en 2018. Chiffre donc du ministère de l'Intérieur. Pour étudier les mesures à prendre après les premiers cas d'infection au coronavirus en France et la situation des expatriés français dans la zone de l'épidémie en Chine, une éventuelle évacuation, le Premier ministre Édouard Philippe a convoqué il y a 2 heures à Matignon les ministres concernés, ministre de la Santé Agnès Buzyn, de l'Intérieur Christophe Castaner, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye et le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari. On compte actuellement 3 cas avérés de coronavirus en France, 3 personnes hospitalisées à Paris et Bordeaux, à l'isolement et qui vont bien. Hélène Chevalier, vous êtes en direct au ministère de la Santé où on attend une déclaration d'Agnès Buzyn. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Hélène, plusieurs personnes sont actuellement sous surveillance pour savoir si elles sont contaminées.
Oui, Agnès Buzyn a annoncé ce midi que 5 personnes étaient en cours de diagnostic. On attend les résultats ce soir. On ne sait pas s'il s'agit de voyageurs revenant de Chine ou des personnes ayant été en contact avec l'une des 3 personnes atteintes du coronavirus dans l'Hexagone. En France, pour le moment, on ne compte aucun cas de transmission dite secondaire. Ces personnes qui seraient atteintes du virus sans avoir été en Chine. Les 3 premiers cas sur le territoire français, l'homme de 48 ans à Bordeaux et le couple de touristes chinois à Paris avait séjourné à Wuhan. Et puis la deuxième question à laquelle devrait répondre Agnès Buzyn concerne les 800 expatriés français à Wuhan, foyer du coronavirus. Seront-ils rapatriés? Et si c'est le cas, seront-ils accueillis avec un dispositif médical particulier, avec des examens approfondis, ou auront-ils droit au même accueil que tous les passagers revenant de Chine via l'aéroport Charles de Gaulle, à savoir la possibilité d'être reçu par une équipe médicale s'ils ont des symptômes ou des questions, des inquiétudes, dispositif qui a été mis en place aujourd'hui dans l'aéroport parisien. Pour le moment, ce dispositif n'a décelé aucun nouveau cas.
Hélène Chevalier au ministère de la Santé à Paris avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. En Chine, le maire de Wuhan, la ville au cœur de l'épidémie de coronavirus, s'attend à environ 1 000 000 de contaminations supplémentaires sur la base du nombre de patients hospitalisés qui n'ont pas encore été testés. Le bilan sur l'ensemble du pays est pour l'instant de 56 morts et 2050 personnes contaminées. Les autorités chinoises ont décidé de suspendre tous les voyages organisés vers l'étranger. On peut donc s'attendre à moins de touristes chinois dans la capitale dans les prochains jours. Ce n'est pas dramatique, il faut faire avec. C'est ce que dit Jean-François Martins, adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme, interrogé par Jules De Kiss sur France Info.
On va attendre de voir quelle va être la durée de cette interdiction. Elle ne concerne à ce stade que les voyages en groupe, donc ce qui veut dire que la moitié, ce qui est important, mais finalement que la moitié de notre visiteur chinois. Il faut évidemment garder ça comme le lait sur le feu, parce que il représente intramuros près de 800 000 visiteurs par an, 1,5 million sur le Grand Paris et l'Île-de-France. Et donc c'est évidemment un pays important pour nous. Mais d'abord, évidemment, notre préoccupation va sur la santé des Chinois et des Parisiens. Et donc c'est une sage mesure. Et on peut, pendant quelques semaines en tout cas, se permettre de mettre le tourisme en arrière-plan des enjeux de santé publique. L'économie touristique parisienne, elle est forte. Elle a eu la chance de se relever de toutes les épreuves qu'elle a connues ces dernières années, et elle en a connu, gilets jaunes, terrorisme, crue, grève, rien ne nous aura été épargné, c'est désormais coronavirus, et à chaque fois, les professionnels du secteur, les pouvoirs publics ont démontré qu'on savait se relever. Et que là, s'il faut pendant quelques semaines se passer du touriste chinois pour assurer la santé de nos concitoyens, c'est un sacrifice qui me semble assez humain et naturel de faire.
Jean-François Martins, adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme. Marine Le Pen est revenue aujourd'hui sur l'avis très critique du Conseil d'État sur la réforme des retraites. Avis publié vendredi, le Conseil d'État estime ne pas avoir eu le temps de garantir au mieux la sécurité juridique de la réforme, déplore les projections financières lacunaires du gouvernement et un recours aux ordonnances qui fait perdre la visibilité d'ensemble. La présidente du Rassemblement national, pas surprise par le jugement sévère du Conseil d'État, elle l'a dit au micro de Perrine Roguet de France Bleu Nord lors des vœux du maire d'Hénin Beaumont.
Il est assez étonnant de voir la sévérité du Conseil d'État à l'égard de cette réforme des retraites. Elle ne nous a pas, en ce qui nous concerne, étonnés, puisque depuis le début de cette réforme, nous avions indiqué, là encore, cette impréparation, cet amateurisme, cette volonté de passer en force, cette absence totale de chiffres, de simulations données, et le coût de cette réforme d'ailleurs, que l'on ne connaît pas plus aujourd'hui, ce que pointe du doigt le Conseil d'État. Est-ce que la raison va revenir au gouvernement et que sur la base de cet avis du Conseil d'État, ils vont retirer le projet? Je le souhaite, je l'espère.
Marine Le Pen cet après-midi à Hénin-Beaumont. La Convention citoyenne sur le climat doit remettre ses conclusions début avril. 150 personnes tirées au sort composent cette convention. Au début du mois, Emmanuel Macron leur avait dit qu'il attendait des options fortes et souhaitait, sur quelques mesures, en appeler au référendum. Le président de la Commission environnement du Parlement européen, Pascal Canfin, s'est dit favorable aujourd'hui à un référendum à questions multiples pour éviter d'en faire une consultation pour ou contre Macron. Pascal Canfin était l'invité d'Ali Badou dans Questions politiques à la mi-journée sur France Inter.
C'est quelque chose qui n'existe pas en France, qui consiste précisément à utiliser l'outil du référendum pour consulter les Français sur l'écologie, mais éviter le côté plébiscitaire dans un sens ou dans un autre. Donc la question, ça va être finalement pour ou contre Macron et pas pour ou contre la question posée. Donc pour éviter ça, c'est un référendum à questions multiples. 3, 4, 5 maximum questions qui doivent être suffisamment précises pour qu'on puisse y répondre et suffisamment transformationnelles pour que ça vaille le coup. Donc c'est sur des questions stratégiques de politique publique. Ça peut être sur l'énergie, ça peut être sur la fiscalité, ça peut être sur la mobilité, ça peut être, je ne sais pas, ce sont les citoyens qui vont faire des propositions. Laissez cet exercice de démocratie inédit se dérouler et en avril, vous aurez des propositions de questions. Je l'espère, ça se conclura par un référendum à questions multiples. Si les Français s'opposent à la mesure X ou Y en matière de fiscalité, de mobilité, etc., ben à ce moment-là, on saura où les Français sont. Et on ne pourra pas dire au gouvernement, vous n'agissez pas contre la société.
Pascal Canfin, invité d'Ali Badou dans Questions politiques sur France Inter. Unis pour Tiphaine, c'est le nom de l'association que les proches de Tiphaine Véron viennent de lancer en même temps qu'un site internet dédié aux investigations qui concernent la disparition de cette jeune femme au Japon. On a perdu la trace de Tiphaine Véron il y a quasiment 18 mois à Nikko, à 150 km au nord de Tokyo. Les membres de la famille ont eu accès il y a quelques semaines au dossier d'enquête de la police japonaise. Les proches de Tiphaine Véron sont déçus par cette enquête. Béatrice Duguet, ils veulent retourner au Japon en ce début d'année.
Quelques touristes entendus et gare plus. Les policiers japonais soutiennent en fait la thèse d'un accident. Tiphaine serait tombée dans une rivière proche de son hôtel. C'est quasi impossible pour Sybille Véron, sa sœur.
Les données de pluie, par exemple, quelqu'un tombe dans la rivière à ce moment-là. Au moment où Tiphaine a disparu, on retrouve un corps. Le temps était correct. Nous, on a fait des recherches sur le terrain. Donc, on n'y croit pas, cette thèse de l'accident dans la rivière. Mais la police japonaise préfère retenir cette piste-là, vu qu'ils ne veulent pas creuser les auditions. Et donc, en fait, on tourne en rond.
La famille de Tiphaine Véron a collecté en fait pas mal d'informations sur les lieux de la disparition qu'il faudrait pouvoir croiser auprès du personnel de l'hôtel, auprès des clients aussi.
Il faut juste repartir du point de départ et petit à petit vérifier ce qui n'a pas été vérifié.
Il faut bousculer l'enquête, dit Sybille Véron, visionner d'autres vidéosurveillances, notamment accélérer une coopération trop timide entre la France et le Japon, contacter aussi Microsoft pour récupérer des données de géolocalisation du téléphone de Tiphaine.
J'ai l'impression de pousser une voiture en panne là tout le temps. En fait, il faut qu'on soit très proactif, c'est dur.
À ce titre, l'association qui vient de voir le jour redonne du souffle.
Là, on a demandé de l'aide sur des traductions, on a demandé des conseils juridiques. Les adhérents de l'association peuvent nous aider sur des aspects pratiques comme ça.
Financièrement aussi, Sybille et ses frères prévoient de repartir une 7e fois au Japon en mars.
Enquête de Béatrice Duguet. C'était une des figures de Montmartre et des nuits parisiennes. Michou, décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Michou avait ouvert en 1956 son célèbre cabaret de la rue des Martyrs qui a accueilli tous les jours pendant plus de 60 ans célébrités et inconnus venus dîner et sourire devant le spectacle d'artistes, les Michettes, outrageusement maquillées. Bien avant les drag queens, Michou a ouvert la voie en proposant, dès les années 50, des spectacles avec des hommes travesti en femme pour caricaturer les vedettes à la mode. Son minuscule cabaret a inspiré à Jean Poiret la cage aux folles, toujours vêtu de bleu avec son éternel brushing blond platine, figure du showbiz. Au style exubérant, Michou était chevalier de la Légion d'honneur depuis 2005. Retour sur la vie de cette légende de la nuit à Paris avec Stéphane Capron.
Je suis du Nord, il en faut bien, tout le monde peut pas être parisien. Et je vous assure que les gars d'Abbeville sont aussi forts que cette belle ville.
Michou, de son vrai nom Michel Cathy, monte à Paris en 1949. Il atterrit à Montmartre et rencontre une femme qui tient un bar, rue des Martyrs, le Madame Intel. Avec des copains, il le trouve un peu triste, alors ils en font un cabaret transformiste. Chez Michou, ouvre ses portes le 13 juillet 1956. Tous les soirs, il imite Brigitte Bardot et termine son numéro presque nu. Michou, figure emblématique des nuit parisienne, devient le prince de Montmartre, reconnaissable à ses lunettes bleues. Il attire les stars de cinéma, Delon, Belmondo se pressent pour y voir les imitations des vedettes de l'époque, Sylvie Vartan, Dalida, Chantal Goya. Au fil des années se sont ajoutées celles de Vanessa Paradis, Patricia Cass, Lady Gaga, Mylène Farmer. Le cabaret fait salle comble tous les soirs. Survivra-t-il à sa mort? Ce n'est pas sûr. Dans son livre autobiographique, Michou écrivait « Lorsque j'aurai tiré ma révérence, je souhaite que mon cabaret ferme définitivement ses portes. »
De la ville de Paris, j'en suis un peu le dandy. Dans tous les quartiers, j'ai des amis. Pour les filles du calvaire, j'ai toujours du savoir-faire. Et pour elle, je lèverai mon verre.
Voilà la disparition aujourd'hui de Michou à l'âge de 88 ans. Le trotteur français de 5 ans, FaceTime Bourbon, drivé par le Suédois Björn Goop, a remporté cet après-midi à Vincennes la 100e édition du Prix d'Amérique, devenant le nouveau champion du monde du trot attelé. La deuxième place est revenue au grand favori Davidson Dupont. La tenante du titre, Bélina Josselin, a pris la 3e place de cette course mythique disputée sur 2700 mètres avec les 18 meilleurs trotteurs de la planète. Les conditions de circulation ce soir, on va retrouver Jeanne Dossé au PC Mobilité. Bonsoir Jeanne. Carambolage au sud de Lille.
Oui, tout à fait, sur l'A23 dans le sens Lille-Valenciennes. 4 voitures sont impliquées dans cet accident dans les environs de Nomain. Soyez prudents parce que vous ne circulez que sur une file dans le secteur. En Ile-de-France, c'est compliqué à l'est de la capitale. Sur l'A3 direction Paris, il y a un accident entre 2 voitures à hauteur de Noisy-le-Sec. Il faut compter une demi-heure de ralentissement à partir du Blanc-Ménil et ces ralentissements se répercutent sur l'A86 intérieure à partir de Bobigny. Il faut prévoir une 40aine de minutes de retard sur votre parcours.
Jeanne Dossé, merci. Dans quelques instants, le journal des sports avec Jérôme Val. Mais d'abord, la météo, les couleurs du ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Voici Jean-Michel Golinski de Météo France.
Demain, dans un flux océanique relativement doux, les valeurs seront partout au-dessus des gelées la nuit, y compris l'après-midi à peu près comme aujourd'hui, entre 6 et 11 dans la moitié nord, 11 à 15 degrés dans la partie sud. L'inconvénient majeur sera le temps perturbé et venteux qui va accompagner ces températures au-dessus des normes, avec des pluies qui vont traverser le pays du nord vers le sud dans le courant de la journée. En commençant par le nord de la Loire, vers la mi-journée, ce corps pluvieux va se situer de la Nouvelle-Aquitaine aux frontières du nord-est. Puis en soirée, c'est toute la moitié sud qui sera sous la pluie, avec au passage de la neige sur les plus hauts sommets vosgiens, mais à moyenne altitude sur tous les autres massifs. À l'arrière, vers le milieu de la matinée, installation par la Manche d'un ciel variable avec averses et coups de tonnerre. Et puis en journée, ce temps instable va gagner tout le nord de la Loire.
Jean-Michel Golinski de Météo France. Et maintenant, l'actualité sportive. C'est Intersport avec Jérôme Val. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Pierre.
D'abord le Paris Saint-Germain qui peut prendre le large ce soir en tête de la Ligue 1.
Les Parisiens sont à Lille pour conclure cette 21e journée. Seule équipe a vaincu Lille à domicile cette saison, mais le PSG en cas de succès peut en effet accentuer son avance sur ses poursuivants Marseille et Rennes. Bonsoir Bruno Salomon.
Bonsoir Jérôme.
Depuis le stade de Pierre Mauroy pour France Inter. Alors on se pose la question ce soir Bruno, les Parisiens ont-ils déjà la tête à la Ligue des Champions et à Dortmund en sachant qu'ils ont encore 6 matchs à disputer d'ici là ?
En tout cas, Jérôme, Thomas Tuchel nous l'a juré hier, la main sur le cœur. Il n'y a que la presse qui pense vraiment à Dortmund, alors que lui et ses joueurs, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, eh bien, ils ont la tête uniquement à Lille. On n'est pas forcément obligé de croire les Parisiens. Bien sûr que le match du 18 février est dans toutes les têtes, mais pour être prêt pour le 8e de finale aller, il faut quelques répétitions générales. Et par exemple, le match de ce soir, eh bien, c'est un match considéré comme du haut niveau par les Parisiens qui respectent beaucoup Lille. C'est une équipe qui a joué la Ligue des Champions, Lille. Le PSG va donc aligner son équipe type. Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria sont tous attendus ce soir car ça sera une bonne pelouse. Le toit est fermé. Condition idéale pour une répétition générale. Donc dans moins de 23 jours, on le rappelle, ce sera le match face à Dortmund. Bien sûr au PSG, il est espéré une chose sur ce genre de rencontre. Eh bien, c'est d'éviter les blessures, un petit peu comme mercredi dernier en Coupe de la Ligue où Marquinhos, lui, s'est blessé. Il est désormais mais incertain pour le match de Dortmund. En tout cas, cette rencontre s'annonce palpitante entre Lille et le Paris Saint-Germain. Jérôme.
À 21h, merci Bruno Salomon depuis Lille. Et cet après-midi, Nantes s'est fait surprendre sur sa pelouse par Bordeaux 1-0. Dans ce match où a été rendu un hommage à Emiliano Sala, ce joueur disparu dans un accident d'avion il y a un an. L'Argentin formé à Bordeaux est révélé à Nantes. Lyon enfonce de son côté un peu plus Toulouse. La Lanterne Rouge, victoire 3-0. L'OL remonte à la 5e place à 5 points du podium. L'embellie se poursuit pour le biathlon français qui termine son week-end en Slovénie par une nouvelle victoire. victoire, celle de Quentin Fillon-Maillet dans la Mass Start. Martin Fourcade ne prend que la 5e place, mais garde la tête au classement général de la Coupe du Monde. Chez les femmes, nouveau podium pour Anaïs Bescon qui termine 3e. 3e podium du week-end pour la Jurassienne. Alors forcément, de bon augure avant les championnats du monde dans 2 semaines en Italie.
C'est un site un petit peu en altitude comme ici, avec la difficulté sur la piste. De nouveau, pas mal de spectateurs français en général qui nous suivent, comme il y avait ici. C'était vraiment sympa. Donc voilà, on a 15 jours avant les prochaines courses mondiaux. On va bien mettre tout ça en bon sens.
Ah, ça a moins souri en revanche pour les Français sur la mythique piste de Kitzbühel en Autriche. Avec l'épreuve du slalom, Clément Noël, le favori vainqueur l'an passé, finit 3e. Quand même son 9e podium en Coupe du Monde à seulement 22 ans.
Et Jérôme Val, la déception est venue d'Alexis Pinturo. Une nouvelle fois, serait-on tenté de dire.
Ah oui, il a complètement raté sa 2e manche et ne prend aucun point au classement général. Alors dans son entourage, Guillaume Batin, on commence à se poser des questions.
9e du Super G de Kitzbühel vendredi, une seconde manche ratée aujourd'hui dans le slalom, pas classé la semaine dernière à Wengen, Alexis Pinturo est en plein doute.
Un peu déçu quoi, hein. Là c'est la 2e fois de suite, clairement sur la glace je n'arrive pas à produire mon meilleur ski, je skie même pas très bien, hein. Donc il y a du boulot quoi.
0 point gagné en 2 slaloms à une semaine d'intervalle, voilà de quoi agacer son entraîneur Fabien Munier.
Ça fait 2 fois de suite, moi je sais que c'est pas sa valeur, on est beaucoup à le penser, après ça m'énerve de faire des erreurs comme ça.
Une mauvaise série dont Alexis Pinturo saura sortir, Clément Noël, 3e aujourd'hui du slalom de Kitzbühel, en est convaincu.
C'est juste que c'est dommage pour lui là, qu'il perde des points comme ça et de la confiance comme ça, parce que avec le niveau de ski de slalom qu'il a montré à Val d'Isère et à Zagreb, etc., le fait de se mettre un petit peu dans le doute comme ça, avec c'est dommage, mais bon. Je me fais pas de soucis pour lui, dans la tête il est très fort et il peut revenir fort.
Alexis Pinturo aura très vite l'occasion de sortir de cette mauvaise série dès mardi prochain à Schladming. À Kitzbühel, Guillaume Batin, France Inter.
Allez, du ski au top 14 de rugby et l'Union Bordeaux-Bègles n'a pas réussi à reprendre son fauteuil de leader. Défaite il y a quelques minutes à Toulouse, 22-14. Dans le bas du classement, Agen s'est imposé à Bayonne, 23-22 après 11 défaites consécutives. Le SUA laisse la dernière place au Stade Français.
Jérôme Val, mais l'événement en rugby, ce sera bien sûr dans une semaine, le début du tournoi des Six Nations, le premier pour le nouveau sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié.
Qui va entraîner son nouveau costume par le crunch face à l'Angleterre dans une semaine tout juste au Stade de France. Alors on le sait, on aura l'occasion de le répéter depuis la dernière Coupe du Monde à l'automne. Les Bleus ont beaucoup changé, mais c'est le cas aussi pour les Anglais, finalistes malheureux de ce mondial perdu contre l'Afrique du Sud. Fanny Lechevestrier, eux aussi ont fait le ménage chez eux.
Oui, parmi les 34 joueurs appelés pour le tournoi par le sélectionneur Eddie Jones, il y a déjà des absents de marque comme Vunipula blessé et Dan Cole écarté. Mais surtout, 8 petits nouveaux, un tiers de l'effectif des finalistes du dernier mondial est renouvelé. Car comme la France, le grand objectif du 15 de la Rose, c'est la Coupe du Monde 2023. Mais attention, équipe remaniée ou pas, Eddie Jones conserve les mêmes ambitions. Et ce, dès dimanche prochain face aux Bleus.
Je pense qu'on a une équipe prometteuse et notre ambition est toujours d'avoir la meilleure équipe du monde, de faire rêver les gens. Alors c'est vrai, il y a 4 ans, c'était déjà notre but et on a échoué en finale de la Coupe du Monde en prenant la 2e place. C'est décevant, mais là, on a une nouvelle opportunité de devenir la meilleure équipe du monde.
Et pour cela, elle compte notamment s'appuyer sur les joueurs des Saracens, des joueurs revanchards selon lui, qui voudront montrer à toute l'Angleterre leur valeur après l'annonce de la relégation de l'équipe en fin de saison pour raisons financières. Eddie Jones, toujours aussi ambitieux donc, mais également impatient d'en découdre avec les Bleus, emmené, dit-il, par une légende du rugby, Fabien Galthié, est déjà prêt à lancer les hostilités à quelques jours du crunch.
L'humidité, le vent, le froid, le Stade de France, 16 heures, j'ai vraiment hâte d'y être.
Et il aurait pu ajouter l'accueil chaud bouillant que lui réservent les 80 000 spectateurs du Stade de France, puisqu'on le rappelle, le match se jouera à guichet fermé.
Et ce tournoi en version 2020 débutera samedi avec Pays de Galles, Italie.
L'Open d'Australie de tennis et les favoris n'ont pas flanché ce dimanche à Melbourne.
Exactement Pierre, avec la qualification pour les quarts de finale de Novak Djokovic et de Roger Federer qui a une nouvelle fois concédé un set. Dans le tableau féminin, l'adolescente de 15 ans a le phénomène. Coco Gauff n'a pas renouvelé ses exploits précédents. Elle a été sortie par une autre américaine, Sofia Kenin. Place maintenant aux autres 8e de finale la nuit prochaine. Celui notamment très attendu de Gaël Monfils, le dernier des Mohicans côté français. Il sera opposé à Dominic Thiem, 5e mondial, double finaliste à Roland-Garros. Partie compliquée, reconnaît Monfils.
C'est un joueur qui me pose énormément de problèmes. Généralement, tactiquement, il m'a bien. Et physiquement, il me pose toujours un combat que j'ai du mal à tenir. C'est encore à moi de chercher. Faut pas oublier qu'il est plus fort que moi. C'est à moi de créer du jeu pour pouvoir le bousculer un peu, quoi.
Et parmi les soutiens de Gaël Monfils, il y a sa compagne Elina Svitolina, elle-même joueuse de tennis. Et c'est un peu, Fabrice Abgral, bien le couple star du circuit.
En fait, Gaël Monfils et Elina Svitolina filent le parfait amour depuis un petit peu plus d'un an. Ils sont tous les deux extrêmement discrets sur leur relation. Seules quelques photos sur Instagram dévoilent parfois leur intimité et leur complicité. Lui, vous le savez, il est 10e mondial, elle 5e. Et quand l'un des deux est sur le court en compétition dans un même tournoi, l'autre, forcément, est en tribune.
C'est stressant et donc ça me bouffe un petit peu d'énergie, mais honnêtement, très naturellement, tous les deux, on va se parler avant le match, même après un peu le match, ce qu'on a vu, c'est très naturel entre nous deux sans ça.
Et quand Gaël Monfils, raquette en main, se retrouve sur le court à l'entraînement face à Elina Svitolina, il ne rigole pas tout le temps, à tel point que parfois, il ne voit pas la différence entre sa compagne et un sparring partner masculin.
C'est pareil, on va dire, parce que ça reste une grande joueuse. Au niveau de la frappe de balle, elle est pareille. Il faut dire les choses, elle est vraiment dedans, quoi. C'est à chaque fois je lui dis, c'est une autre fille sur le terrain.
Alors évidemment, Elina Svitolina sera demain en tribune dans le box de Gaël Monfils. Elle sera là à l'encourager et espérer le voir atteindre pour la deuxième fois les quarts de finale à l'Open d'Australie.
Fabrice Abgral depuis Melbourne pour la page People d'Intersport. Et puis pour voir Monfils contre Thiem, eh il ne faudra pas dormir beaucoup cette nuit puisque le match doit débuter vers 2h du matin, heure française. Une fois n'est pas coutume, le rallye de Monte Carlo échappe à Sébastien Ogier pour sa première course chez Toyota. Le septuple vainqueur de l'épreuve a été devancé par le Belge Thierry Neuville pour une poignée de secondes seulement.
Vous écoutez Intersport avec Jérôme Val. Jérôme, comme tous les dimanches, on prend la route de Tokyo en vue des prochains Jeux Olympiques et des chances de médailles chez les Français. Ce soir, gros plan sur une pistarde qui a de l'avenir.
Oui, Mathilde Gros, grand espoir du cyclisme sur piste, un sport qu'elle a d'ailleurs découvert récemment, il y a 5 ans à peine. Cette ancienne basketteuse n'a que 20 ans, un âge qui lui permet d'espérer pour les Jeux au Japon, mais surtout pour ceux de Paris en 2024. Présentation avec Jean-Pierre Bimou.
Mathilde Gros ne se destinait pas au cyclisme, encore moins à la piste. Basketteuse depuis son plus jeune âge, elle est parvenue à intégrer le pôle espoir de basket d'Aix-en-Provence jusqu'à ce qu'elle essaie un vélo d'intérieur muni d'un capteur de puissance. Ses résultats sont tellement impressionnants qu'elle intègre le pôle espoir d'Île-de-France, puis obtient des grands résultats dans les compétitions internationales, jusqu'à 2 titres de championne d'Europe de Keirin en 2018 et 2019 et une 3e place mondiale en vitesse individuelle l'an dernier. Conséquence, les JO lui trottent dans la tête, mais sans trop se mettre de pression. Mathilde Gros.
C'est vrai que je ne me projette pas tant que ça. Je pense que toutes les années ont été importantes et ont fait ce que je suis aujourd'hui. Un athlète n'a jamais une carrière longiligne, tout beau, tout rose. Donc, pour garder en tête son objectif et son rêve.
Pour Florian Rousseau, triple champion olympique sur piste, Mathilde Gros a plusieurs atouts.
On parle beaucoup de ses capacités physiques, mais je crois qu'il faut noter aussi ses capacités mentales, capacité d'adaptation, de passer d'un sport à l'autre. Et puis, justement, avec un apprentissage très, très rapide, surtout quand on n'a pas été formé depuis le plus jeune âge, justement, à cette discipline.
La jeune Française n'aura que 21 ans à Tokyo, ce qui laisse la porte grande ouverte pour Paris dans 4 ans.
Moi, mon rêve, c'est d'être championne olympique et je ferai tout pour. Si c'est pas à Tokyo, j'espère que ce sera à Paris et puis on verra bien ce que le destin me réserve, mais je veux pas avoir de regrets.
En attendant ce profil, les championnats du monde à Berlin début mars.
Voilà un nom à retenir, Mathilde Gros à vélo sur les pistes.
Jérôme, c'est la chaussure qui fait voler les coureurs à pied. La Vaporfly de Nike doit-elle être interdite?
Eh bien, en tout cas, la question est posée, notamment après le record du monde en marathon du Kenyan Eliud Kipchoge, moins de 2 heures à Vienne en octobre dernier, record non homologué car il portait ses chaussures révolutionnaires mais controversées. La Fédération internationale doit trancher dans les prochains jours, mais déjà la Vaporfly séduit de plus en plus de coureurs, comme vous avez pu le constater Clément Comte.
Oui, nous sommes au stade Léo Lagrange à Paris, un soir de semaine. Laurent, là-bas, enchaîne les tours de piste avec ses nouvelles chaussures, convaincu.
Je me dis que ça peut avoir un effet plus de plaisir. Quelque part, il y a la semelle, il y a la plaque de carbone qui permet de mieux équilibrer le pied, en fait, et ce qui fait que la foulée est un peu meilleure. Donc, faut être curieux et voilà.
Comme Laurent, d'autres membres du club Sam Paris 12 ont craqué pour les chaussures vertes ou roses, chaussures qui réduiraient de 4% la consommation d'énergie, selon des chercheurs. Un avantage en course, mais pour Alain Thomas, entraîneur, ce n'est pas du dopage technologique.
Le mot dopage, non, il faut l'enlever. Ça permet une meilleure récupération et un meilleur retour quand on accélère, ça c'est sûr. Mais la vitesse intrinsèque, c'est la personne qui l'a. Hein. Attends, c'est pas le chaussure qui m'a donné. Hein.
Pourtant, plusieurs records sont tombés ces derniers mois, notamment sur le marathon. Les vainqueurs portaient ces chaussures-là. Injuste pour Patrice Gergès, le directeur technique national de la Fédération française d'athlétisme.
Ça sème un flou qui est désagréable en tant qu'observateur d'avoir. Et l'athlète doit être transparent parce que si là maintenant, il faut avoir du matériel pour se comparer, bah ça devient un sport mécanique.
Même raisonnement chez World Athletics qui pourrait donc interdire ses chaussures en compétition. Réponse dans quelques jours.
Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Pierre, en vue du prochain marathon de Paris début avril.
Absolument, c'était Intersport avec Jérôme Val. Merci Jérôme.